Vous écoutez KTO Radio, il est 22h. Dans la nature, cela semble être la base fondamentale de toute évolution. Les arbres, les planètes, les galaxies, l'univers tout entier obéit à des lois qui, même si certaines nous échappent encore, sont bien présentes. Les animaux ne se posent pas la question pour leurs petits. Ils savent instinctivement l'intérêt de les faire obéir pour mieux les préparer ensuite à vivre libre. Chez les humains, en tout cas dans notre société occidentale, l'obéissance a pris au fil du temps un tout autre visage. Elle est de plus en plus souvent perçue comme une entrave à la liberté. On l'accepte encore du bout des lèvres, reconnaissant timidement quelquefois ses bienfaits, mais avec toutes les craintes qui se faufilent en filigrane derrière ce terme. L'obéissance. Crainte des excès, crainte de contenir l'enfant dans un système qui l'empêcherait de s'épanouir. Et pourtant... Comment aller, nous les humains, contre ces lois universelles dont le Christ, par sa parole infiniment simple et emplie d'amour, nous a montré le chemin? Qu'est-ce que l'obéissance?
L'obéissance, ça dépend qui commande, voilà, qui donne les ordres. Et quels sont les ordres, voilà.
Aux contraintes, à l'autorité des parents. Puisque c'est là qu'on apprend à obéir.
Moi, je le relie spontanément à l'écoute et à la confiance et aussi à l'autorité.
C'est important d'obéir. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Enfin, moi, j'ai appris comme ça. Il fallait absolument obéir. Il n'y avait pas le choix de ne pas obéir. C'était pas... Il n'y avait pas d'autre solution.
Ça peut être dangereux, puis d'un autre côté, c'est aussi une règle de vie en commun.
Obéir, c'est vouloir se rétablir dans une relation juste avec Dieu et avec nos frères.
Obéissance, ça vient de écouter, audire en latin. Donc c'est une attention aussi. C'est pas une servilité, mais une attention à quelque chose qui veut me faire grandir. Et j'attache ça à l'autorité aussi, parce que l'autorité, ça veut dire faire grandir. Auctoritas, ça vient aussi du latin, et ça veut dire faire grandir. Et on peut être obéissant que dans la mesure où on a confiance que celui qui me donne des ordres, ou qui me conseille, ou qui me commande, ou qui me guide, est quelqu'un dont je sais qu'il veut me faire grandir. L'obéissance, il y a aussi des stades, et c'est pour ça que je dis que c'est un chemin, l'obéissance. On obéit très différemment quand on est enfant et quand on est adulte. Pourtant, l'obéissance n'est pas réservée aux enfants, mais elle s'apprend dans le bas âge par des contraintes. Moi, j'aime bien l'image de l'arbre. Pour qu'on ait un beau chêne, qui pousse bien droit, qui fasse des branches équilibrées, et bien souvent, on met un tuteur au début, parce que sinon, il va partir de travers et il ne va pas s'épanouir comme il pourrait, quoi. Et le tuteur, c'est une contrainte forte. On l'oblige, on contraint, on force, en fait, à grandir dans ce sens-là. Et il y a une certaine douleur aussi, peut-être. Alors, le chêne ne dit pas beaucoup, mais, mais un enfant peut le dire, fait remarquer que ça lui casse les pieds d'obéir. Et pourtant, c'est très important aussi dans la perspective de l'avenir, de la croissance de la personne. On sait qu'un enfant, si on ne donne pas un guide fort, mais l'école le fait dans son domaine, les parents le font dans leur domaine, etc., s'il n'y a pas un guide fort à un moment donné, eh bien, l'épanouissement futur va être un peu compromis ou rendu plus difficile parce qu'il n'y aura pas le bon départ, en fait. Voilà.
Alors, est-ce que c'est bon? T'es installé?
Oui.
Tiens, on y va? Allez. J'ai pas compris. C'est une dictée de mots ou c'est une dictée...
C'est une dictée.
Je te dis les mots.
En gros, tu dois...
Pour qu'ils se construisent, l'enfant a besoin de savoir où sont les parents, où sont les cadres, où sont les limites. Quand ils étaient plus petits, je mettais plus de limites et je me suis rendu compte que c'était trop, ça allait pas. Donc c'est des choses à moduler. À moduler selon ce qu'on vit, mais aussi selon les enfants, parce qu'en fait, ils n'ont pas tous le même tempérament, ni la même personnalité. Donc en fait, c'est pas pareil pour tous les enfants. Et après, oui, trop de liberté, en fait, moi, ça me fait peur. Parce que je me dis qu'après, on ne contrôle pas, on ne sait pas ce qu'il aura acquis ou pas comme cadre, en fait. Et je me dis que quand même, il y a un cadre à acquérir quand même après pour se sentir construit, pour se sentir fort pour l'avenir, quand même. Mais voilà, après, je ne sais pas si tout le monde pense comme moi, hein, mais bon, c'est mes idées.
Si tu écris le mot, tu vas t'en souvenir. Si tu barres juste, ça sera dur de se souvenir.
Hein? Oui.
C'est bon? Il y a quoi d'autre après?
Il n'y a rien d'autre.
T'es sûre?
Après, bah voilà, ils ne m'obéissent pas forcément. Hein. Même quand j'essaye de leur expliquer pourquoi, il faut que je répète et que je répète. Mais je me dis que ça leur servira toujours. Peut-être ça reviendra après. Peut-être ils auront ça dans la tête à un moment donné et puis ça reviendra plus tard. Même si je ne le vois pas maintenant.
L'obéissance s'apprend-elle tout au long de nos jeunes années ? Ou n'est-ce que le début d'un long cheminement personnel afin de nous aider plus tard à tenir debout ? Chacun avec sa vie propre, ses possibilités, ses fragilités. L'obéissance peut-elle être un rempart contre la servilité ? Un pacte signé avec des valeurs humaines fondamentales que l'on apprend à honorer chaque jour. Un outil capable de construire notre liberté profonde. Pour saint Thomas d'Aquin, par exemple, le vœu d'obéissance est le plus fondamental des vœux religieux.
Fondamentalement, pour moi, obéir, c'est prendre le risque d'être créatif. Donc je prends complètement le contre-pied de tout ce qui pourrait laisser entendre que obéir, c'est aliéner sa liberté. C'est l'inverse. Obéir, c'est écouter quelqu'un, c'est lui faire confiance, et c'est mettre en pratique, c'est-à-dire, c'est fonder un certain nombre de décisions et d'itinéraires sur la parole d'un autre.
La tradition spirituelle religieuse ancienne, vraiment l'obéissance est la clé.
Voilà.
Parce que, toute la vie religieuse, depuis aussi les premiers siècles, se structure autour de cette notion. De l'obéissance. L'obéissance religieuse, donc du coup, l'obéissance au supérieur, l'obéissance à la règle, l'obéissance mutuelle des frères les uns aux autres, qui va rétablir tout ce qui a été rompu par le péché, qui est non seulement la méfiance vis-à-vis de Dieu, mais aussi la méfiance vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de... l'obéissance permet de rétablir les relations rompues dans la communauté humaine.
Est-ce ces relations rompues de la confiance envers la parole du Christ qui transgresseront certaines lois humaines pour les diriger vers l'innommable. Au cours de l'histoire des hommes, l'obéissance a tellement pris de multiples visages, aussi magnifiques que monstrueux. Une obéissance totalement dénuée de sens et d'intelligence humaine peut-elle transformer, au nom du pouvoir, des êtres humains en serviteurs du mal ? Tant de moments ont généré un aveuglement, une cruauté incompréhensible, jusqu'à certaines périodes sombres de l'Église, où les ordres donnés par des hommes de pouvoir politique étaient intrinsèquement opposés au message d'amour que le Christ avait rapporté de son Père. Les hommes avaient-ils donc omis d'écouter l'essentiel ? Comment défricher ces terres emplies de promesses et d'espoirs, présentes au fond de chacun, afin de les cultiver et faire fructifier par l'autre obéissance, celle qui s'appuie sur des racines solides, les possibles de la vie.
Tous, notre devoir pour vivre et être créatif, c'est d'écouter. Je crois que le fondement de l'autorité, le fondement de la relation d'un supérieur avec les membres de sa communauté, elle est fondée sur l'écoute. Et non pas sur des idées préconçues ou sur une volonté propre que je pourrais avoir sur les personnes.
Et le pouvoir, c'est les autres qui nous le donnent, c'est pas nous qui le prenons. Ça, c'est pas la loi de la jungle, hein. Et voilà, quand on a servi, parce que c'est épuisant aussi de servir au niveau de la direction de la communauté, après, c'en est d'autres qui prennent le relais. Et c'est dans ce sens-là qu'on est toutes responsables. On est toutes responsables.
On est chacun différent, chacun unique et avec une mission, entre guillemets, on peut peut-être appeler ça comme ça. Chacun a sa mission, chacun a ses talents. Et je pense que l'obéissance, finalement, c'est peut-être d'accepter en profondeur ce qu'on est et puis faire fructifier ce que le Seigneur a mis en nous à travers notre caractère, notre tempérament. Et s'il a mis quelque chose... de bon, de... C'est ça qu'on a à faire fructifier et à offrir à ses sœurs et au monde qui nous entoure.
Obéir en conscience et en amour. Les pistes sont tellement simples au fond, comme ce somptueux équilibre de la nature, création divine dont l'homme parfois s'inspire, mais aussi bien souvent ramène à ses propres plaisirs. Et pourtant... Combien de leçons aurions-nous à retenir de cette nature qui nous invite à entrouvrir les portes de l'indépendance, de la responsabilité, de l'autonomie, comme des phares à ne jamais perdre de vue. Ces hommes et ces femmes qui ont choisi librement d'entrer dans des ordres religieux où l'obéissance est au centre, l'ont tellement compris. Oh, combien sont-ils loin des contraintes et des rigidités que le monde extérieur, ignorant tout de leur engagement, caricature sur leur vie. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, rappelait saint Paul.
Quand on est responsable et qu'on exerce l'autorité, on a besoin de la maturité des gens. Une autorité n'est jamais isolée, en fait. Ce serait très dangereux, ce serait... Mais ça ne doit pas exister.
Okay. C'est quoi le coup qu'on commence là ?
Eh bien, du coup.
Mariage 8 juillet.
Mariage, oui. Alors, le 8 juillet, c'est qu'il y a 4 mariages et un autre mariage à Notre-Dame.
Okay, donc je dis mariage 8
pour
juillet.
Pour moi, je me prends en tant qu'abbesse. Ça m'arrive d'arriver avec un projet, j'y réfléchis à quelque chose pendant des mois, des semaines, et je trouve que ce que j'ai dans la tête est bien. Et je vais le proposer à la communauté, donc au chapitre, et là, les sœurs vont devoir dire ce qu'elles en pensent. Et c'est arrivé, pas souvent, mais que les sœurs me mettent complètement par terre mon projet, puis elles n'y entrent pas du tout, et puis elles ne sont pas du tout d'accord. Et c'est arrivé que plusieurs semaines après, plusieurs mois, je me dis, ben, heureusement, mon projet, ça ne tenait pas la route.
Mais c'est vrai aussi, quand on peut avoir une idée aussi personnellement, et puis qu'on propose à l'abbesse. Et puis voilà, il y a tout un cheminement, et c'est là que le temps intervient aussi. Il y a un cheminement pour comprendre, et ça rejoint la liberté. Mais nous, on est un petit peu quand même à contre-courant de ce que vit le monde, finalement. Parce que notre choix, il est quand même de suivre le Christ. Le Christ qui était pauvre, chaste et obéissant. Et la liberté, c'est plus de faire ce qu'on veut, c'est d'entrer dans ce que Jésus a vécu lui-même.
Mais le Christ lui-même a vécu l'obéissance jusqu'à la mort. Et donc on ne peut pas, comme chrétien et encore moins comme prêtre, contourner cet aspect de l'obéissance. Ça doit faire partie de la vie du prêtre, parce que ça fait partie de la vie du Christ aussi. Donc elle a sa place quelque part. Elle n'est pas toujours confortable, l'obéissance.
Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, avait dit Jésus. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père.
L'obéissance, c'est d'abord l'obéissance du Christ. C'est l'obéissance du Christ à son Père, et c'est la manière dont le Nouveau Testament interprète le salut dans le Christ. C'est l'épître aux Philippiens, il s'est fait obéissant pour nous jusqu'à la mort et la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Ou l'épître aux Hébreux, le Christ, bien qu'il soit le Fils, a appris ce qu'était l'obéissance, parce que c'est, en fait, la vision du salut, c'est que ce qui a introduit le péché dans le monde, c'est une désobéissance. Et ce qui ramène le salut dans le monde, c'est l'obéissance du Christ.
Fratres carissimi, confite amor domino, cui astat multitudo angelorum salensium in unum, et acclamemus gaudentes, da nobis castitatem cordis et corporis, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum.
L'obéissance ne peut pas nous faire abdiquer notre libre arbitre et l'exercice de notre raison. Si un supérieur me demande quelque chose dont je sais parfaitement que je ne peux pas le faire, que je ne suis pas capable de le faire, je peux et je dois lui dire non.
Deus qui miro ordine angelorum ministeria hominum quae dispensas per omnia saecula saeculorum. Amen.
Si on obéit à Dieu, c'est parce qu'on reconnaît dans sa voie un chemin de sanctification, un chemin de bonheur, un chemin d'épanouissement, un chemin d'éternité dans lequel on croit, et on croit qu'il nous guide et qu'il nous veut du bien. Et donc là, l'obéissance a du sens. C'est nécessairement un chemin parce que, en fait, pauvreté, chasteté, obéissance, qu'on traduit comme ça pour les vœux religieux, sont en fait les trois conseils évangéliques qui sont universels pour tous les chrétiens. Tous les disciples de Jésus s'attachent à vivre selon la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, parce que c'est l'évangile, tout simplement, que les religieux déclinent par leurs règles, d'une certaine manière, chacun, selon son ordre. Donc c'est aussi pour nous tous une éducation, une croissance, un apprentissage à éviter les déviances d'un côté ou de l'autre, la surobéissance un peu qui devient servile et qui n'est pas la vraie obéissance, ou la désobéissance, et trouver dans ce juste milieu la vraie signification de l'obéissance, c'est un chemin dans lequel s'engagent les religieux, mais qui en fait correspond à la vie chrétienne aussi, de manière générale.
Mais il y a aussi l'objectif, le but, que finalement ce vœu d'obéissance, c'est pour notre bien. C'est pas pour se gargariser en disant « moi je suis une personne obéissante et je fais tout ce qu'on me demande », mais c'est pour notre bien, c'est pour nous aider à grandir et pour réaliser ce que le Seigneur attend de nous.
Une obéissance, elle est jamais définitive par rapport à certaines choses, et c'est dans ce sens-là où je trouve que l'obéissance, c'est quelque chose de très vivant. Parce que souvent, moi, on me demande des choses que je dirais, j'aurais pas l'idée de faire, hein, mais ça me fera découvrir au fond de moi des trésors qui sont, je dirais, inemployés.
L'obéissance est une pierre philosophale qui change en or tout ce qu'elle touche, écrivait saint Vincent de Paul. Ce saint homme, qui consacra sa vie à fonder des œuvres afin d'aider les plus pauvres et les plus fragiles, avait compris, comme tant de mystiques, combien l'obéissance est un chemin central dans nos existences. Mais un chemin escarpé, exigeant, fragile aussi, où l'enseignant a pour tâche délicate de donner à l'enfant, plus qu'un savoir compulsif et stérile, le goût du savoir. Cet apprentissage, empli de saveurs, où la valeur des acquis n'est jamais définitive, dépend non pas tant du profit physique, intellectuel et moral qu'en ont retiré les enfants, mais bien plutôt de ce qu'ils ont pu véritablement assimiler, comprendre, ressentir, ancrer dans leur cœur. Peut-on dire alors que pour donner le goût de l'apprentissage, du travail, il faut également ouvrir les portes de la désobéissance aux injustices? Comment aller depuis tout jeune et tout au long du chemin de sa vie vers une obéissance profonde, libre, issue d'un regard éclairé, attentif?
Il y a à faire confiance, à croire qu'au-delà de cette apparence de désobéissance, il y a une obéissance plus profonde, et quelle est-elle? Je ne sais pas ce que c'est que désobéir. Pour moi, c'est un mot qui est vide de contenu, sauf si il veut dire « je n'écoute pas ». Alors voilà, quand je n'écoute pas, de fait, je désobéis. Mais désobéir à un ordre matériel, on me dit de faire ça et je fais autre chose, c'est pas de la désobéissance. C'est simplement, j'entends, au-delà de la matérialité de ce qu'on me demande, quelque chose de plus profond, et je dis oui à une réalité plus profonde. Donc l'autre peut me dire, mais tu désobéis, mais c'est pas vrai.
Si tu veux la paix, prépare la guerre, est une devise dangereuse. Si tu veux la paix, prépare la paix, doit être la formule de l'avenir. Ces mots, inscrit sur le monument pacifiste de Saint-Martin-d'Estreau par le maire du village, révolté après la Grande Guerre, ont plusieurs fois été effacés parce qu'ils dérangeaient l'ordre établi. Quoi de plus normal aux yeux de la nation que de sacrifier des jeunes vies innocentes? Quoi de plus monstrueux pourtant que d'admettre l'inadmissible? Plusieurs fois vandalisés et partiellement détruits parce que le maire refaisait inlassablement graver les mêmes inscriptions, le monument fut enfin inauguré en 1947, lors de l'inscription des dernières victimes de la Seconde Guerre mondiale. Il avait tellement d'avance sur son temps.
Les militaires, quand ils sont amenés à... C'est vraiment des cas de conscience, quoi. Quand on leur demande d'aller sur un front pour Et je veux dire, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, comment ils vivent la chose? Parce que des fois, ça, bon, ils peuvent rentrer dans l'état d'esprit de celui qui commande, mais pas forcément. Et on a vu au moment, il n'y a pas très longtemps, on a vu un film là, sur... mais j'arrive pas à retenir son nom. C'était un Autrichien. Jusqu'au bout, il a refusé d'aller sur le front. Donc il a été... il était tout seul, en fait, hein. Même l'évêque, le prêtre, enfin tous les gens qu'il allait voir le poussaient de rejoindre. Et lui, jusqu'au bout, il a refusé et il a été tué, forcément. Et il avait deux... Enfin, voilà. Souvent, je me dis, mais si tout le monde réagissait comme ça, peut-être qu'il y aurait moins de guerre. Et ça arrive finalement, peut-être assez souvent, finalement, qu'on n'ait pas le courage de vraiment dire... je dis non parce que je suis pas d'accord ou parce que il y a des choses à changer ou voilà, des fois on se laisse, on dit on dit oui parce qu'on a on n'a pas le courage, on n'a pas l'audace, on n'a pas et je pense qu'au niveau de l'armée, enfin du gouvernement, ça peut être assez souvent comme ça aussi. Des gens qui n'ont pas... quand je dis pas le courage, c'est pas un mauvais jugement, mais il faut avoir vraiment une force de caractère pour arriver à s'affirmer, parce que... Enfin, s'affirmer par le non, justement, d'avoir cette force de dire Ah non, je suis pas d'accord.
Qui est le je qui obéit? Qui est le je qui désobéit? Est-ce que ce je est toujours dans une liberté qui lui permet de dire oui ou de dire non à ce qu'on lui demande et quelquefois à ce qu'on lui impose? Comment demeurer un être pensant et capable de décider face à l'emprise d'une personne?
Il faut que les sœurs soient toutes matures. Elles cherchent vraiment la volonté du Seigneur. Il ne faut pas que les problèmes affectifs fassent que... Eh bien, on va tout permettre à l'abbesse. C'est les sœurs qui donnent le pouvoir à l'abbesse. Si une sœur se positionne et qu'elle dit « là, stop », je crois que vraiment mes sœurs sont capables de me dire « on t'aime bien, mais voilà, stop ». On ne devient pas gourou comme ça. Ça dépend beaucoup des sœurs. Si elles sont prêtes à accepter n'importe quoi parce qu'elles ont besoin d'affection, parce que je sais pas, il y a des choses qui sont pas en place dans leur vie, forcément l'abbesse va être dans la toute-puissance et puis de là elle peut demander n'importe quoi et des fois on a un devoir de désobéir. Alors ça c'est évident, je peux pas obéir à n'importe quoi. On ne peut pas me demander des choses contre ma conscience.
La conscience joue un rôle primordial, c'est vrai que c'est important aussi. Parce que... parfois, il y a des évidences. Quand c'est contraire à la foi, contraire aux mœurs, à la morale de l'Évangile, à la morale chrétienne, il y a des évidences parfois. Parfois, il y a un contexte social, un contexte politique, parfois, comme vous évoquez aussi l'Algérie, qui est très, très dur à discerner dans sa globalité aussi.
Il y a toute une tradition morale qui dit aussi que la limite de l'obéissance due à un supérieur, c'est l'ordre injuste. On ne doit pas obéir à un ordre injuste. D'ailleurs, les dérives spirituelles que l'on peut observer, pas au Moyen-Âge, hein, mais dans certaines communautés aujourd'hui, en fait, sont souvent basés sur le fait que le supérieur, par emprise spirituelle, demande à des religieux, des religieuses, des choses qui sont moralement injustes. Il y a le très, très, très intéressant livre du prieur de la Grande Chartreuse, dont Dismas de Lassus sur risque et péril de la vie spirituelle, de la vie religieuse, qui est très, très instructif sur ce plan-là. On n'est pas tenu d'obéir à un ordre injuste.
Plus souvent, dans la vie religieuse, l'abus prend la forme d'une tentation sous l'apparence de bien. Le pasteur n'est plus au service des brebis, mais les brebis au service du pasteur. Les abus ne sont pas extérieurs à nous, ils sont en puissance à l'intérieur de chacun. Des accidents, il y en a toujours, mais ce n'est pas en fermant les yeux qu'on va les éviter. Quand vous êtes un fondateur ou un supérieur adulé par votre communauté, il est très difficile de résister à l'orgueil.
La question de l'obéissance dans le contexte des abus, des emprises, c'est une vraie question, c'est-à-dire le formateur, maître des novices, supérieur ou quel que soit d'autre, peut avoir envie d'avoir une emprise sur l'autre. Et du coup, de donner un sens à l'obéissance qui soit celui du premier niveau de l'exécution, et du coup de culpabiliser l'autre en disant « tu n'as pas exécuté ce que je t'ai dit, et donc tu désobéis, donc tu n'es pas un bon religieux ». Celui qui a cette conception est enfermé en fait dans une dimension psychologique d'emprise qui, de fait, est très malfaisante. D'où la question de l'autre qui s'aperçoit qu'il est l'objet d'emprise, est-ce que effectivement il a l'audace de trouver cette obéissance profonde en lui qui est de dire « de fait, on est dans un monde où il y a des malfaiteurs, il y en aura toujours, il n'y a pas que tel supérieur ou etc. Mais prenez la réclame, prenez la publicité, prenez le discours des hommes politiques. Tout le monde, tout le temps, il y a des risques d'emprise.
Dans les processus actuels, comme quand on nous parle de l'influenceur, le coach, qu'est-ce qu'il y a, tous ces noms d'aujourd'hui qui sont des noms de prescripteurs, on va dire, hein? Et ben là non plus, on fonce pas tête baissée, quoi, hein? Voilà. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on me demande de faire, est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est juste?
À quoi je dis oui? Et c'est une veille permanente. On n'est jamais en repos sur ces questions-là.
La vigilance. Un regard que l'on pose au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on imaginait sans faille, au-delà de ces paysages rassurants ou familiers, derrière lesquels se cachent peut-être aussi des âmes sombres. Les terribles exactions ne se réalisent-elles pas au nom d'une obéissance absolue à une hiérarchie indiscutable ? Comment aider l'enfant à construire en lui cet équilibre infiniment subtil entre obéissance et désobéissance?
Il y a forcément des dérives, je pense, dans tous les systèmes qui sont très hiérarchiques, comme ça, où on doit obéir sans discuter. Alors, moi, je leur ai déjà appris à dire non à certaines choses, hein, pour se protéger. Protéger son corps, se protéger soi-même, voilà, déjà la base. Parce que moi, j'ai jamais appris à dire non. On m'a toujours dit, il faut filer droit et puis tu fais ce qu'on te dit. C'était une éducation très stricte, vraiment. Et qui, enfin, voilà. Et j'ai appris à dire non il n'y a pas très longtemps. Par la nécessité, en fait, par la force des choses. J'ai appris à me protéger et à commencer à dire non. Parce qu'à force de dire oui à tout le monde, au bout d'un moment, je ne pouvais plus... Enfin, on ne peut pas toujours faire... plaisir à tout le monde, c'est pas possible, mais on met longtemps, enfin moi j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte, donc j'ai appris petit à petit à dire non, et c'est très difficile au début. Donc du coup, c'est certain que si on n'a jamais appris à commencer à dire non, simplement déjà pour une petite chose, déjà pour quelque chose qui n'est pas grave, parce que moi j'ai appris comme ça, c'est à dire non sur des petites choses qui n'étaient pas, qui n'avaient pas trop d'enjeux, qui n'étaient pas graves. C'est un peu plus facile, parce que l'enjeu n'est pas énorme. Et après, je suis passée à des étapes au-dessus. Voilà. Dans ma vie, j'ai passé des épreuves où j'ai été obligée de mettre un stop à des choses qui étaient vraiment impossibles à vivre. Et ça a été beaucoup plus dur, mais j'ai réussi. Mais c'est une étape comme ça. Donc c'est sûr qu'apprendre aux gens à dire non, aux enfants à dire non aussi pour se protéger, je pense que c'est pareil, ça peut se faire par étapes. Et c'est sûr que c'est important de leur apprendre pour à pas croire de la même façon, à pas croire tout ce qu'ils vont écouter à la télévision ou à la radio. C'est la même, ça va dans le même sens. Se dire bah non, là peut-être c'est pas vrai, peut-être je dois un peu plus réfléchir ou un peu plus aller chercher plus loin pour comprendre ce qui se passe, pour pas croire tout ce qu'on demande de faire ou tout ce qu'on demande de penser.
L'éducation, c'est aider un jeune à réfléchir, à découvrir qu'il a un espace de conscience et que non seulement il peut, mais il a à décider de ce qu'il fait. Et ça commence par des toutes petites choses. Un exemple tout simple, c'est je me mets au travail, j'écoute mon professeur. Celui qui ne veut pas écouter son professeur n'a pas envie d'entendre et du coup reste prisonnier de ce qu'on peut dire ses passions ou ses envies ou son ego. Il a envie de rester dans sa bulle. Il n'a pas envie de s'ouvrir à l'autre. Ce jeune n'est pas libre. Il y a à le conduire sur un chemin où il découvre que d'écouter un enseignant, pour en faire son profit, c'est comme ça qu'il va grandir.
1, 2, 3, 4.
Un enfant avec ses parents, forcément, les parents veulent qu'il obéisse. Et l'enfant n'a pas de défense, comme l'adulte, pour faire ce long chemin dans la conscience. Du coup, il est manipulable. Et un enfant, si vraiment c'est un enfant, il fait confiance.
Ah ben, j'ai toujours obéi à mes parents. J'ai souvent été en pension, il fallait obéir. Et ben, je vous dis franchement, toutes les pensions que j'ai faites, je ne peux pas dire que j'étais heureuse. Hein. J'en ai fait beaucoup. Hein. Ça vous marque.
Mais du coup, ça peut être pour le pire ou pour le meilleur. D'où une vraie responsabilité des éducateurs et des parents qui est d'être dans le plus juste possible, dans le plus respectueux possible. Voilà. Et nous tous, nous avons comme adultes à relire nos expériences plus jeunes où la confiance a été abusée ou au contraire où la confiance m'a fait grandir. Et nous sommes tous travaillés par cette relecture.
Ah bah oui, avec mes enfants, moi je les ai élevés, je m'en suis occupée. Hein. Même que j'ai divorcé, je m'en suis occupée. Hein. Ah oui, ils n'ont pas eu l'enfance que moi j'ai eue, heureusement. Hein.
Depuis toujours, la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ça veut dire d'imaginer que l'enfant va obéir et que devenu adulte, enfin, je ne vais plus obéir mais faire ce que j'ai envie. Ça, c'est du fantasme. C'est complètement faux. Plus je deviens adulte, plus j'ai envie d'apprendre, d'écouter, de connaître, pour mieux obéir.
Oui, c'est pour ça, moi, je trouve que une chose qui fait un petit peu paradoxale, mais l'obéissance, c'est aussi le synonyme de liberté. C'est quelque chose qui vous libère. Ça vous libère de ce à quoi vous étiez attaché, de ce à quoi vous vouliez absolument arriver. Et puis finalement, il vous est quelquefois demandé quelque chose contraire. Et si vous l'acceptez, si vous le prenez dans l'obéissance et que vous le faites de bon cœur parce que ça vous est demandé, finalement, vous vous trouvez libéré parce que vous avez fait abnégation de votre point de vue personnel, abnégation de ce à quoi vous étiez attaché et que finalement, en réfléchissant et en exécutant ce qui vous a été demandé, vous vous rendez compte que c'est bien meilleur que ce à quoi vous-même aviez pensé. Et c'est pour ça que moi, obéissance et liberté, ça va très bien ensemble.
C'est plus que l'obéissance, c'est les engagements que l'on prend qui nous libèrent. J'ai promis, voilà, en devenant prêtre, je me suis engagé à un certain nombre de choses, et cet engagement que j'ai pris, finalement, peut être source de liberté intérieure.
Qui dit choisir, dit renoncer. Et de tenir les deux dans notre vie, c'est exigeant, mais voilà, quand l'objectif est clair, c'est-à-dire suivre Dieu ou être à son écoute, il y a quelque chose qui devient plus facile parce que l'objectif est clair. Mais de ne pas perdre de vue justement cet objectif, c'est là aussi notre mission. Et il y a des petits choix, et souvent ces choix aussi sont liés aux interdits. On repense aussi au décalogue, enfin, quand Dieu donne cette loi, c'est pas pour enfermer son peuple dans un carcan qui serait rigide, mais au contraire pour l'éveiller à une grande liberté.
Si on nous manque pas de respect, qu'on nous demande de faire quelque chose, c'est de quelqu'un, par exemple, un prof qui est au-dessus, ou nos parents, ou une loi, et bon, on l'applique sans problème.
Pour moi, l'obéissance, c'est important parce que déjà, c'est un respect dans la vie, dans la communauté qu'on a avec les gens tous les jours, bah, notre famille, nos amis, avec les gens avec qui on travaille. Et ça, je trouve ça important d'obéir, c'est savoir se respecter aussi. Donc, ça ne nous plaît pas forcément tout le temps. Mais je trouve que c'est quelque chose d'important, l'obéissance.
Les lois sont source de liberté. Les règlements sont source de liberté. Parce qu'on sait dans quel cadre avancer. Servi legi facti sumus, ut liberi esse possimus. C'est pas le chrétien, c'est Cicéron. Nous sommes faits les esclaves des lois pour que nous puissions être libres. C'est, en dehors des lois, en dehors des règles, on est dans le domaine de l'arbitraire, qui est en fait le domaine de la contrainte, alors que dans un ordre des choses où les choses sont cadrées par des lois, des règlements, des engagements, en fait, c'est à l'intérieur de ces limites que nous pouvons exercer la vraie liberté.
Filio et Spiritui Sancto, tibi Christe splendor patris, vita virtus cordium, collaudamus venerantes, inclitos arcangelos, sed precipue prima.
Saint François disait l'obéissance est la sœur de la charité. S'il n'y a pas de charité, l'obéissance devient très vite toute puissance et devient dangereuse. Mais si on sait qu'on s'en remet à quelqu'un qui nous veut du bien, qui est dans une volonté bienveillante envers nous, alors oui, c'est une obéissance de fils ou de fille au Père qui nous aime. Un peu comme le Christ à Gethsémani, qui dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Il ne peut le faire que parce qu'il se sait aimé du Père. Sinon, ce serait quoi? Ce serait terrible comme obéissance. Mais non, parce qu'il sait cet amour, il peut obéir.
C'est le cœur tourné vers le Seigneur et vers l'amour du bien qui est la source des jugements vrais de la conscience. Et la liberté de conscience n'est jamais une liberté affranchie de la vérité, mais elle est toujours et seulement dans la vérité. Une obéissance profonde, libre, issue d'un regard éclairé, aimant. L'obéissance dans l'Église, c'est l'image du pasteur qui mène son troupeau vers la liberté et l'amour, dans une foi responsable devant Dieu.
Le Seigneur lui confie ses enfants, ses filles bien-aimées. Et je crois que l'abbesse a vraiment ce devoir de prendre soin du troupeau qui lui est confié. Et en prendre soin, c'est veiller. Donc c'est pour ça que j'aime bien que des sœurs soient avec moi. C'est veiller à ce que chacune puisse donner le meilleur d'elle-même, puisse elle-même écouter ce que le Seigneur lui dit profondément. Et le rôle de l'abbesse, c'est d'écouter ce que la sœur lui dit pour essayer de la faire grandir et de lui donner les moyens de répondre à ce que le Seigneur veut pour elle.
On peut se tromper, aussi être un peu aveugle sur la charité qu'on exerce en étant responsable. Est-ce qu'on est dans la charité, dans le bien de l'autre, ou est-ce qu'on est un peu dans la satisfaction personnelle aussi? Voilà, je pense que ça me demande aussi être relu aussi avec un directeur spirituel, par exemple.
Dans la vie spirituelle, le plus grand danger que disent beaucoup de mystiques, c'est de s'illusionner sur ce que c'est que la volonté de Dieu. C'est-à-dire de la confondre avec ma volonté propre.
Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au Mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. »
Ce qui est intéressant dans le récit de la Passion, et de l'agonie au Jardin des Oliviers, qui est le moment où l'obéissance du Christ est mise en scène, si on peut dire, par les évangélistes de la manière la plus forte, c'est que le mot qui est employé par les évangélistes, c'est « Père, si cette épreuve peut passer loin de moi ». Le mot grec, perasmon, c'est le mot que l'on retrouve dans le Notre Père. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. Nous traduisons par tentation. Je regrette que dans la traduction quand on a renouvelé la traduction du Notre Père, on se soit focalisé sur le verbe. Pour savoir s'il fallait dire « ne nous soumets pas, ne nous laisse pas », alors que je pense qu'il aurait été plus intéressant de faire bouger un petit peu la traduction du mot que nous traduisons par « tentation », parce que pour le grand public, la tentation, c'est la tentation de manger un chou à la crème si on a du diabète, ou de prendre la femme de son voisin si elle est plus jeune, mais alors que l'épreuve, c'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve devant laquelle se trouve le Christ. « Père, si c'est possible que ça passe loin de moi, pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La vraie tentation, c'est l'épreuve de la foi.
Allez, tu peux, ose, lève-toi. Parmi des beaux exemples d'obéissance, je pense notamment à Dietrich Bonhoeffer, donc un pasteur protestant, qui, quand même, comme pasteur, on pourrait dire, il va vivre de la parole de Dieu. Il voit Hitler monter en puissance et il est très interrogé en disant « Mais ce type est un malfaiteur. Il est en train de tuer non seulement des handicapés, des juifs, mais il envahit des pays et il engage des massacres. » Et pour finir, il se dit « Il faut le mettre à mort. » Et donc, il participe à un complot, à des complots, pour essayer de tuer Hitler. Et on voit qu'il n'arrête pas de s'interroger comment est-ce compatible avec « tu ne tueras pas ». Voilà. Que faire ? Comment vivre ? Quelle obéissance ? Bon, pour finir, je passe les épisodes. Les attentats ratent. Il est arrêté, les SS découvrent qu'effectivement il a trempé dans un certain nombre de complots, il est envoyé en camp de concentration, et toute la fin de sa vie, il continue à écrire de la théologie, il réfléchit sur les questions d'éthique, et quelques témoins dans les derniers jours de sa vie disent qu'il était en train de remonter le moral de ses camarades. Et pour moi, c'est le signe qu'il a toujours essayé d'obéir.
Nous sommes toutes là réunies autour de cette recherche du visage de Dieu. Et à midi, nous avons chanté les psaumes. Le psaume 118, c'est un long psaume qui dit « Apprends-moi tes volontés, dis-moi le chemin, apprends-moi tes voies, Seigneur. »
Cinquante années plus tard, dans la même ferveur, éclairée par la parole de celui à qui elle avait offert sa vie, sœur Annunciata renouvelait ses vœux. L'obéissance, ancrée au plus profond de son âme, avait fait d'elle une femme libre et heureuse.
L'obéissance, c'est comme l'amour. C'est un horizon, c'est un chemin vers lequel je veux tendre, je veux aimer, je veux obéir. C'est insaisissable, mais c'est un désir profond que je garde toujours. Parce que c'est ça qui me rend vivant, c'est ça qui me rend créatif, c'est ça qui me permet d'oser des choses que je n'imaginerais jamais. Je mets ma foi en un autre qui me permet d'inventer ce que, par moi-même, j'aurais jamais pensé possible.
Une obéissance guidée par le véritable amour. C'est donc cela, le secret de notre envol vers une vie responsable et constructive. Une vie ancrée sur des fondations solides, parce que le discernement du bien face aux apparences demeure au centre. Parce que la recherche de la vérité exige un éloignement radical des illusions. Parce que la liberté se construit dans une compréhension profonde des règles. Et que les ordres ne sont plus reconnus comme des exécutions auxquelles il faut obéir. Et dans le mot exécution, il y a le mot mort. Mais bien plutôt comme des phares capables d'éclairer notre route. L'obéissance devient alors profondément le sens de notre vie. C'est cette valeur intrinsèque, l'obéissance, dont le Christ lui-même nous a montré le chemin. Avec lui, grâce à lui, nous apprenons jour après jour à aimer l'autre dans sa différence. Et nous pouvons alors devenir des êtres libres.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
unique parmi les arbres du jardin.